écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Christian Van Est, assisté de Nathalie, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 26 juin 2019, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors cette seconde partie de l'émission sera consacrée à un sujet ô combien douloureux. Il s'agit en général du problème de la fin de vie, bien sûr, mais en particulier de la situation de Vincent Lambert. Et cette semaine est une semaine cruciale pour lui, puisqu'effectivement, la Cour de cassation a examiné le cas. Tout à l'heure, on l'évoquera plus précisément sur le plan juridique. Et elle doit rendre sa décision vendredi. Nous sommes juste entre l'affaire Lambert traitée par la Cour de cassation et la décision qui va tomber dans quelques jours. J'ai autour de moi pour évoquer cette question Jean-Frédéric Poisson, qu'il n'est plus tellement nécessaire de présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie. Jean-Frédéric Poisson, qui, comme vous le savez, est président du Parti chrétien-démocrate, qui également a été député au moment où ont été votées les lois Leonetti et les lois Leonetti-Claeys, c'est-à-dire les deux lois qui, dans le fond, conditionnent les suppléments. À propos de Vincent Lambert, il se trouve que en tant que philosophe et en tant que philosophe chrétien, Jean-Frédéric Poisson s'est penché sur cette question et je pense qu'il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « Personne ne doit mourir seul » et qui évoque ce sujet très douloureux de la fin de vie. J'ai également autour de moi Patrick Bray. Alors Patrick Bray, je tiens vraiment à le remercier d'être venu à cette émission parce qu'il n'est pas parisien, il a fait l'effort malgré la chaleur que nous connaissons aujourd'hui de venir de Tours et il représente dans le fond ces associations qu'on appelle les associations pro-vie. C'est-à-dire les associations qui se battent avec acharnement pour le respect de la vie humaine, même lorsque cette vie est dans une situation limite, comme c'est le cas de celle de Vincent Lambert. Patrick Bray anime l'association Rivage et participe systématiquement tous les ans, je crois, aux marches pour la vie.
Absolument. Absolument.
Alors, nous allons bientôt être rejoints par Maître Triomphe, par Maître Jérôme Triomphe, qui est l'avocat des parents de Vincent Lambert. Et tous les auditeurs qui regardent parfois la télévision se souviennent de la joie qui l'a envahi lorsqu'il a appris que la Cour d'appel avait annulé la décision des médecins, du collège de médecins qui avait décidé de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation de Vincent Lambert, il y a de ça maintenant quelques semaines. Alors, souvent les gens qui estiment que cette affaire a trop duré et qu'il faudrait aider Vincent Lambert à quitter ce monde évoquent le problème de l'acharnement thérapeutique. On pourrait en parler ici avec précision, mais parfois on peut aussi, et c'est mon cas, lorsqu'on constate un certain nombre de précipitations, un certain nombre de déclarations, je pense à celle notamment du procureur Molins, lorsqu'il a demandé à ce que la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel, eh bien, je pense qu'on pourrait parler d'acharnement euthanasique. Parce que manifestement, il y en a qui s'acharnent pour qu'on mette fin au jour de Vincent Lambert. Alors c'est une véritable discussion. Personnellement, j'ai voté la loi Leonetti, donc je n'ai pas, si vous voulez, à prendre une position catégorique sur le sujet. J'ai estimé pour ma part qu'en cas d'une maladie irréversible, la loi Leonetti était une bonne loi qui permettait à quelqu'un de quitter le monde avec le moins de souffrance possible. Mais précisément, ce qu'il faut bien dire, avant de commencer cette émission, ce qu'il faut bien dire, c'est que Vincent Lambert n'est pas malade. il n'est pas malade. Il n'est pas quelqu'un qui connaît une maladie irréversible. Il n'est pas en phase terminale d'une maladie. Il ne reçoit pas, à proprement parler, de traitements médicaux, de médicaments, pour être clair. Il est simplement nourri et hydraté pour être maintenu en vie. C'est quelqu'un qui est handicapé profond. Et ensuite se pose la question, mais peut-être que précisément Jean-Frédéric Poisson aura réfléchi à cet aspect, bien sûr, c'est le niveau de conscience. Jusque quand le niveau de conscience indique qu'on a encore affaire à un être humain complet, quoi. Ça, c'est un véritable problème. En tout état de cause, acharnement thérapeutique d'un côté, acharnement euthanasique de l'autre, j'ai souhaité pour ma part que l'on donne la parole à la défense ce soir dans cette émission. Je veux pas que ce soit un débat, manifestement les gens qui sont ici sont des défenseurs acharnés de la vie, parce que précisément on ne les entend pas suffisamment. La majorité des gens, je pense, aujourd'hui est favorable à ce qu'on mette fin à la situation de Vincent Lambert. Est-ce que pour autant ils ont raison? C'est peut-être à nous d'essayer de montrer qu'ils n'ont pas forcément raison, et je crois que Jérôme Triomphe, qui nous rejoint maintenant, est parfaitement convaincu du fait que l'acharnement euthanasique, eh bien, n'est pas plus satisfaisant que l'acharnement thérapeutique. Il est même certainement beaucoup plus condamnable. Alors, j'ai parlé un peu longuement pour présenter les choses en attendant celui qui va quand même lancer l'affaire, c'est-à-dire l'avocat, et qui va peut-être nous rappeler quelle est exactement la situation juridique compliquée. Parce qu'il y a deux situations, avant de partir sur des réflexions plus générales sur le cas, des réflexions philosophiques notamment, il faut bien préciser que ce cas est entouré par deux série de difficultés, les unes étant médicales et les autres étant juridiques. Alors, sur le plan médical, on va tout à l'heure interroger au téléphone le médecin qui a soigné Vincent Lambert, qui est donc le docteur Ducrot.
Xavier, médecin conseil.
C'est pas lui qui soigne, en fait. Non. Il conseille les parents, c'est non. ça. Il
le médecin
les
qui est censé soigner ne le soigne pas.
Oui, c'est ça. Alors, le problème, c'est que les trois médecins successifs qui l'ont soigné au CHU de Reims, les deux premiers sont partis d'ailleurs, finalement, tous les trois étaient favorables à l'arrêt des soins, on est bien d'accord. Hein. Alors en revanche, lui, c'est un médecin conseil qui conseille les parents pour faire en sorte que l'on continue les soins. Donc situation médicale compliquée, situation juridique plus compliquée. C'est là-dessus que je voudrais vous entendre. Où en sommes-nous sur le plan juridique? Parce que, fait assez rare, on est quand même passé du droit public et du tribunal administratif et du Conseil d'État à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. C'est un peu surprenant comme cheminement. Quoi.
Et puis au droit international et au droit des tutelles, au droit pénal.
Alors, maître Triomphe, est-ce que vous pourriez rappeler aux auditeurs quel est le cheminement compliqué sur le plan juridique du cas de Vincent Lambert?
Alors d'abord, merci de votre invitation. Bonjour. Je suis ravi d'être à ce micro, d'être entouré, si bien entouré. Le problème, c'est que vous me demandez de synthétiser en quelques minutes 6 ans de procédure, ce qui était une gageure, mais je vais essayer d'être bref. Je voulais juste préciser une chose, c'est que vous avez dit deux obstacles, un problème médical, un problème juridique, et je dirais qu'il y en a un troisième, puis vous êtes philosophe, je crois, tous les deux ici, c'est un problème éthique, évidemment. Hein, puisque la question...
Oui, mais vous avez bien compris que je réserve à chacun sa part essentielle. Vous, c'est plutôt le droit.
Oui, mais
Que celui qui va parler d'éthique, ça va plutôt être Jean-Frédéric.
Bien sûr, voilà. Tout se recoupe, puisque le droit, c'est l'art du juste et du bien, évidemment, et non pas ce positivisme juridique épouvantable qui, en fait, nous fait littéralement crever dans tous les sens du terme. La situation juridique est la suivante. Nous avons, alors, non pas des médecins qui sont favorables à la mort, mais qui sont décisionnaire de la mort, puisque c'est la loi Leonetti-Claes qui ont fait du médecin en réalité le seul décisionnaire de la vie ou de la mort d'un patient après une procédure collégiale, mais qui n'est que consultative. Nous avons eu 3 procédures collégiales successives depuis 2013 jusqu'à 2018. Je ne vais pas revenir sur les 3 premières puisque c'est la 4e qui nous intéresse ici. Après le départ du docteur Carigère, du docteur Simon, c'est le docteur Sanchez qui était gériatre à Sarri Targumine, qui est devenu subitement chef de service d'un grand service de soins palliatifs dans un grand hôpital universitaire d'une grande ville de province à Reims. Il a engagé, au bout de 8 mois de présence, à la demande de François Lambert, le demi-neveu dont on continue à se demander ce qu'il vient faire dans cette affaire, a engagé une quatrième procureure collégiale.
C'est avec l'accord de son épouse, quand même.
Alors, peu importe, d'ailleurs, puisque la loi prévoit simplement que, soit d'office, soit à la demande d'un membre de la famille, le médecin engage une procureure collégiale. Donc, l'épouse pourrait être opposée, ça n'empêcherait pas d'engager cette procureure collégiale. S'en est suivie une procureure collégiale, avec un certain nombre de consultations, qui a abouti le 9 avril 2018 à une décision qui était la même, strictement la même, en réalité, puisque le docteur Sanchez n'a fait que terminer ou essayer de terminer ce qui a été si mal fait en 2013 et 2015, hein. Nous avons attaqué devant le tribunal administratif, qui est le juge naturel de l'administration, puisque l'hôpital est public, en référé liberté, qui a ordonné, donc le juge tribunal administratif a ordonné une expertise qui a été faite en dépit du bon sens, puisqu'on a fait appel à des experts qui ne connaissent pas ce type de patient et qui ne sont pas des spécialistes de la prise en charge quotidienne des patients dits EVCEPR, état végétatif chronique ou post-irrelationnel. Une parenthèse.
Dites-le bien plus lentement.
Pardon.
Parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'effectivement, il s'agit encore une fois d'une personne qui n'est pas malade, qui ne souffre pas d'une maladie chronique et dont l'issue sera fatale. C'est quelqu'un qui est handicapé profond.
Voilà. C'est un handicapé. Enfin, il est handicapé. C'est un handicapé, c'est évidemment le réduire à ce qu'il n'est pas. Il a une tétraplégie, il a une conscience altérée qui fait que son cerveau a été évidemment abîmé dans l'accident, mais avec une préservation du néocortex plutôt importante par rapport à d'autres patients dans sa situation. Ces patients, il faut juste comprendre une chose, c'est que ces patients, si vous les mettez dans des situations où ils sont stimulés, où il y a pour eux un projet de vie, où on s'en occupe comme d'êtres vivants, comme d'êtres humains, ces patients peuvent faire des progrès. Et ces patients manifestent, quand ils sont dans un cadre bienveillant, avec des personnes avec qui ils sont en confiance, des réactions par rapport aux stimulations extérieures. Mais si vous les mettez dans une situation où ils sont enfermés à clé dans une chambre, comme c'est le cas au CHU de Reims depuis 5 ans, enfermés à clé avec un babyphone, pardon pour le cochon, qui l'écoute avec un hublot qu'on a découpé dans la porte pour ne pas avoir à ouvrir la porte, avec une caméra qui surveille la porte d'entrée, vous comprenez que à regarder le plafond toute la journée, eh bien, il n'a plus aucune stimulation, hormis celle de ses parents qui n'ont le droit de le voir que 3 ou 4 heures par jour. Et donc, ces patients ne peuvent pas progresser et ne vont pas manifester auprès de ceux qui n'ont pour lui qu'un projet de mort, des réactions comme ils pourraient les avoir avec d'autres. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que j'ai des films que j'ai pu voir, je connais Vincent, je l'ai rencontré jusqu'à ce que la porte nous soit fermée. Et Vincent, si sa mère lui demande dans de bonnes conditions où il va être éveillé, où il va être réactif, de tourner la tête vers lui, il va tourner la tête vers lui. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Nos médecins l'ont vu et ils l'ont constaté. Et ils sont tous formels pour dire que Vincent n'est pas dans ce qu'on appelle un état végétatif, c'est-à-dire un état dans lequel il n'y a pas de manifestation de conscience. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais bien dans un état pour essayer ce qui est en soi, d'ailleurs, sur le plan éthique...
Répétez un peu le terme, là.
Alors, état végétatif chronique, alors, c'est un terme qui est récusé, d'ailleurs, par les spécialistes, parce qu'il est péjoratif, il renvoie à l'idée de légumes dans l'opinion publique, ce qui n'est pas du tout le cas. L'état dit végétatif, c'est un état dans lequel le patient ne manifeste pas de conscience, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà ce que disent tous les spécialistes. Et l'état possi-relationnel, qui vient du latin possi, peu, et c'est un état dans lequel il va y avoir quelques relations, par exemple...
Et c'est le cas
pour Vincent, à condition de s'en donner les moyens.
Si je vous l'ai fait répéter, c'est justement...
Bien sûr,
que c'est très important.
C'est important, j'allais dire, pour l'opinion publique, mais c'est beaucoup moins important pour les spécialistes. Le professeur Ducrot pourra vous en parler, évidemment, c'est que ces patients, dans quelque état qu'ils soient diagnostiqués, en sachant qu'il y a 41% d'erreurs de diagnostic d'un état végétatif qui n'en est pas un, ils en prennent soin de la même manière. Parce qu'en réalité, ce sont des états fluctuants. on fluctue de l'un à l'autre selon les stimulations, les moments de la journée, l'état de réactivité. Je ferme la parenthèse sur un plan médical, on en parlera tout à l'heure avec le professeur Ducrot.
Je vais l'appeler dans quelques minutes, mais alors, pour la situation juridique.
La situation juridique, nous attaquons devant le tribunal administratif qui ordonne une expertise, expertise qui est faite en dépit du bon sens, je l'ai dit, Vincent va être examiné 1h30 alors qu'il devrait être examiné 3 semaines. Voilà la réalité, ce n'est pas nous qui le disons, encore une fois, c'est toute la littérature médicale et scientifique. Nous allons avoir un premier jugement le 31 janvier 2019 du tribunal administratif disant il y a obstination déraisonnable, il faut arrêter, donc on valide la décision d'arrêter l'alimentation et l'hydratation. On va arriver dans le Conseil d'État qui le 24 avril 2019 va dire il y a obstination déraisonnable. Et fait notable, ces deux juridictions administratives, dont le Conseil d'État, juridiction administrative suprême, vont dire qu'il y a obstination déraisonnable, alors que les trois experts, nonobstant les critiques que l'on peut faire sur leur évaluation clinique de Vincent, vont écrire de manière très ferme « Vincent Lambert, dans la situation qui est la sienne, n'est pas en situation d'acharnement thérapeutique ou d'obstination déraisonnable ». Je veux bien insister là-dessus parce que n'importe quel de nos auditeurs, dont je sais qu'ils sont pour la plupart sensibles au sujet, mais également n'importe quel citoyen devrait être terrifié de se retrouver un jour à avoir comme juge des juges qui vont dire l'inverse de ce que les experts qu'il a lui-même missionné ont dit. Les experts disent il n'y a pas d'obstination déraisonnable et les juges vont dire il y a obstination déraisonnable. On se demande bien à quoi évidemment il servait de les désigner. Tout cela pour dire que nous nous battons malheureusement dans un dossier qui est englué par l'idéologie d'abord et par la politique ensuite. J'y viens.
Vous allez peut-être réserver la politique pour tout à l'heure, si vous voulez bien.
Ça revient au judiciaire, mais nous saisissons après le Conseil d'État la Cour européenne des droits de l'homme en leur demandant des mesures provisoires. Ils nous rejettent dans la foulée et nous saisissons le Comité international pour les droits des personnes handicapées de l'ONU qui, en vertu d'une convention qui a été ratifiée par la France en 2010, reçoit les requêtes individuelles qui sont présentées à titre individuel, c'est la requête individuelle contre l'État. Elle accepte notre requête individuelle et elle va ordonner des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires qui consistent à continuer à alimenter et hydrater Vincent le temps de l'examen de la requête que nous avons déposée. Et la France, dans la foulée, 2 jours plus tard, par le biais de Madame Buzyn, ministre dit des Solidarités et de la Santé, va dire « Nous ne sommes pas tenus par ces mesures provisoires. » Je ne vais pas vous faire un cours de droit international, ce n'est pas le sujet. Elles sont obligatoires, par définition. C'est le principe même de toutes les conventions, qu'elles soient de droit civil entre nous. On s'engage. Eh bien, l'engagement oblige celui qui y a souscrit. C'est la même chose en droit international. C'est même la base des relations de confiance qu'il y a entre les États. C'est le principe d'exécution de bonne foi. Monsieur Macron, lui-même, quand ça l'arrange, n'a pas hésité à rappeler au président Trump, le 15 décembre 2017, que pacta sunt servanda, les conventions obligent ceux qui y souscrivent.
Latin, vous pouvez.
Mais là, c'était dans le cadre de l'accord de Paris dont le président Trump disait vouloir sortir. Là, le président Macron trouve que c'est parfaitement normal de respecter les conventions internationales. Je vous parle du président Macron parce qu'il a prétendu ne rien pouvoir faire, ce qui est un mensonge.
Oui, mais ça rejoint ce que vous disiez, à savoir qu'il y a une idéologie là derrière, c'est le progressisme dans toute sa splendeur.
Et c'est terrifiant. Donc, nous avons ces mesures provisoires. L'État va rédiger un mémoire au CDPH pour dire « Nous ne respecterons pas ces mesures provisoires ». Il va réitérer ces mesures provisoires, le CDPH, le 17 mai. Et c'est en cet état que le médecin va annoncer qu'il arrêtera l'alimentation et l'hydratation au cours de la semaine du 20 mai, et en réalité on apprendra que c'était pas au cours de la semaine du 20 mai, mais le 20 mai au matin, le lundi, qu'il annoncera que l'alimentation et l'hydratation ont été arrêtées sans le moindre préavis, avec une humanité qui, vous en conviendrez, dépasse l'entendement. Et c'est dans ces conditions que, avant cela, et je termine juste sur, si vous voulez bien, sur le jury judiciaire, nous avons saisi le juge administratif pour faire respecter les mesures provisoires qui nous a débouté sans audience. Nous avons saisi le juge judiciaire sur le fondement de ce qu'on appelle la voie de fait, c'est trop technique pour en parler ici, mais qui fait perdre à l'administration son privilège de juridiction quand elle se comporte de manière grossièrement illégale et qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale. Le juge judiciaire, en première instance, nous a débouté, et la Cour d'appel de Paris, le 20 mai, nous a donné raison de manière spectaculaire, et alors que Vincent avait été sédaté dès le matin. Et c'est en cet état que nous arrivons devant la Cour de cassation, que nous attendons évidemment sa décision.
Un grand, grand merci. Nous avons maintenant le docteur Ducrot, Xavier Ducrot.
Professeur.
Le professeur Ducrot à l'appareil. Professeur, voilà, est-ce que vous pourriez en quelques minutes résumer la situation exacte de Vincent Lambert sur le plan médical? Vincent Lambert avait, dans un premier temps, peu de temps après son accident, qui est ancien, qui date de 2008 si je ne m'abuse, hein, avait été à Berck, où il avait donc connu des séances d'éveil, mais très rapidement il a été envoyé à Reims, et depuis finalement sa situation n'a guère changé. Alors où en est-on exactement? J'ai insisté tout à l'heure sur la différence entre le handicapé et le malade. Est-ce que vous pourriez nous préciser finalement quelle est la situation médicale qui permet de dire aujourd'hui que mettre fin au jour de Vincent Lambert, ce serait en fait une euthanasie?
Oui, bonsoir, merci de me permettre d'intervenir dans votre émission. Alors je dirais d'abord que le médecin que je suis, qui est conseil médical des parents de Vincent Lambert, n'a plus accès à Vincent depuis 2015, ce qui est tout de même rend difficile la mission de conseil, sans avoir accès.
C'est assez effarant ce que vous dites quand même.
C'est effarant, mais c'est la malheureuse réalité, une des bien malheureuses réalités concernant Vincent Lambert. Alors ce que je voulais dire sur la situation médicale, effectivement, vous avez raison, elle n'a pas vraiment évolué depuis bien avant même fin 2012, hein, 2013, où a débuté la fameuse affaire Vincent Lambert. Vincent Lambert est en situation d'altération chronique de la conscience, c'est-à-dire qu'il est doublement handicapé, à la fois sur le plan physique, par des paralysies au niveau des membres. Il peut surtout bouger le côté gauche, le membre inférieur gauche, et puis surtout, plus important, un handicap, on va dire, cognitif, intellectuel, si vous voulez, qui ne permet pas d'accéder à sa conscience, si on veut bien admettre qu'il en a une, et ce qui fait qu'il n'y a pas de code de communication fiable avec lui. Alors on voit, il y a la dimension communication, il y a la dimension relation, il y a la dimension conscience, tout ça c'est des concepts un petit peu différents, je regarde ça du point de vue médical. Bref, sa situation n'a pas significativement évolué depuis que nous le connaissons de 2013, ce qui est conforme à son état. Les 1500 personnes qui partagent sa condition, c'est sûr qu'il n'y a pas de réel espoir d'amélioration, même si des exceptions peuvent exister, il n'y a pas vraiment d'espoir d'amélioration, et c'est bien le cas de tous les handicaps, que ce soit une cécité, que ce soit une surdité. Un handicap, il est acquis en général définitivement. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas les moyens de le pallier, actuellement, pas assez moyens. Alors qu'on chipote entre état végétatif ou état de non-réponse ou état de conscience minimale qui équivaut à l'état postier relationnel, peu importe, là n'est pas le problème. L'état de ces patients fluctue, c'est le cas de Vincent Lambert. Ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce que beaucoup continuent de penser encore, il n'est pas maintenu en vie par des machines. La seule machine qu'il a, c'est celle qui pousse la nutrition à certains moments de la journée dans son estomac par ce qu'on appelle la gastrostomie, qui est donc effectivement une nutrition artificielle. Mais nous avons vu dès 2015 que Vincent Lambert était aussi capable de déglutir, peut-être pas de façon à assurer sa nutrition complète, mais au moins pour une alimentation plaisir, en complément de ce qu'il reçoit dans l'estomac. Et des personnes qui partagent sa condition ne sont pas toutes dans des unités spécialisées, soit unités, on appelle EVC-EPR, état végétatif chronique, état postier relationnel, ou en masse, maison d'accueil spécialisée, où sont la plupart de ces personnes.
Alors ça, c'est une question que je voudrais...
Certains sont à domicile.
Voilà, alors c'est une question que je tenais à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transférer Vincent Lambert du CHU, qui manifestement n'est pas du tout adapté à son cas, à un centre qui pourrait lui fournir les soins qui, eux, seraient adaptés à sa situation? Ils existent, ces centres. Il paraît, moi j'ai entendu le chiffre de 1700 personnes qui sont dans une situation semblable dans notre pays.
Mais 138 unités.
Tout Tout à fait. Alors, ces centres existent. Il y a deux raisons à cela. C'est que l'unité dans laquelle Vincent Lambert prétend, permettez-moi le mot, prétend être compétente pour prendre en charge Vincent Lambert, alors que c'est une unité de soins palliatifs tenue par des gériatres.
Les soins palliatifs, c'est pour des malades qui sont en fin de vie parce qu'ils subissent une maladie qui ne peut conduire qu'à la mort et dans la souffrance. C'est ça.
En général. C'est... des fins de vie d'ailleurs difficiles qu'on va mettre dans ces unités parce que c'est difficile ailleurs. Donc il est de ce côté-là pas à sa place, même si les uns les autres prétendent qu'il y est bien soigné. Donc ça n'est pas le cas, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que son épouse, qui est en même temps la tutrice maintenant, s'oppose à ce qu'il change, estimant, et c'est étonnant pour une infirmière, puisqu'elle est infirmière, qu'il reçoit les soins appropriés à son état. J'irais jusqu'à dire que c'est, enfin, nier ça et ne pas permettre un transfert de Vincent Lambert, c'est, il y a quelque chose de scandaleux, quoi. Je m'autorise le terme, c'est scandaleux. Il aurait dû être depuis longtemps, et d'ailleurs, pour prendre la décision qui a été prise par ses médecins début 2013, en estimant qu'il y avait une obstination déraisonnable à continuer de nourrir Vincent Lambert, parce qu'il manifestait, il aurait manifesté dans son comportement une volonté certaine de mourir. Il y a d'abord une erreur de jugement, une erreur médicale qui est une faute grave. Il aurait été logique pour une telle décision aussi exceptionnelle dans cette situation, de commencer par demander avis à une autre équipe rompue à ses patients, et plus rompue que celle de Reims.
Et en revanche, auparavant, il y avait une expertise qui avait été faite à Liège, si je ne m'abuse, il y a quelques années maintenant, et qui avait conclu au contraire au fait que la situation ne correspondait pas du tout à une obstination déraisonnable.
Alors oui, certes, je précise aussi que si Vincent Lambert est allé à un moment à Berck, c'était à la demande de ses parents. S'il est allé bénéficier d'une expertise dans un des meilleurs centres, on peut le dire actuellement au monde, qui est à Liège, c'est aussi à la demande de ses parents. Ça n'a jamais été l'initiative de l'équipe de Reims. La seule initiative de l'équipe de Reims a été de dire que Vincent voulait mourir et qu'il manifestait une volonté de mourir, ce qui est absolument impossible pour une personne qui est en état de conscience, enfin chronique de conscience altérée. C'est impossible. Tous les experts l'ont dit. Nous avons reposé la question, Jérôme Triomphe était présent lors d'une des expertises, hein, en disant, mais est-il possible, Vincent Lambert a-t-il pu à un moment manifester une volonté de mourir? La réponse a été catégorique et immédiate. C'est non, c'est impossible. C'est impossible.
Un très très grand merci pour ces éclaircissements, professeur. Et je sais que vous êtes tenu par le temps, donc je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'apporter votre soutien à la famille de Vincent Lambert. Voilà.
Si je peux ajouter un dernier mot.
Je vous en prie.
Je suis aussi profondément choqué qu'on déplace totalement le débat sur la question de la fin de vie. Vincent Lambert est quelqu'un qui est en situation de handicap, qui n'est pas du tout en fin de vie, et ça fait 6 ans qu'il nous le démontre, même plus que ça, mais au moins 6 ans, malgré des conditions d'incarcération qui lui sont imposées, qui sont contraires à la pratique des soins palliatifs, qui sont contraires aux soins qu'on doit apporter à ces personnes en état de conscience altéré. Malgré ces conditions extrêmement difficiles, et il est probablement un des moins bien placés en France de ce point de vue, malgré ça, il vit, il continue de vivre. Et on parle, quand on parle de Vincent Lambert, l'affaire Vincent Lambert, on parle de la fin de vie, le symbole de la fin de vie. Vincent Lambert n'est pas un symbole, il est une personne handicapée qui a droit à notre protection, à la fois des médecins et celle de notre droit, la justice française.
Vous avez vraiment bien fait de souligner ce point, professeur, parce que dans le fond, Jean-Frédéric Poisson et moi, nous avons participé au vote de la loi Leonetti, et dans notre esprit, enfin dans mon esprit en tout cas, je ne sais pas, il aura l'occasion d'en parler lui-même, Jean-Frédéric Poisson, mais dans mon esprit, ce qui était évoqué, c'était le cas des maladies dont l'issue était irréversible, et il s'agissait avant tout d'éviter les souffrances inutiles. quand on disait obstination déraisonnable, c'est faire en sorte que la personne ne souffre pas au-delà du raisonnable. D'où effectivement les soins palliatifs, d'où même une sédation profonde, dans le cas où de toute façon il s'agit d'éviter quelques jours de plus de souffrance. Or là, dans ce cas-là, Vincent Lambert ne souffre pas en fait. Il, comme vous dites très bien, il vit. Et donc, ce n'est pas du tout une opération, à mon avis, qui colle, si vous me passez l'expression, avec la loi Leonetti, mais c'est bien en fait une tentative d'euthanasie, c'est-à-dire de faire mourir quelqu'un qui en fait vit, hein, et de le faire mourir en l'occurrence sans même savoir s'il est d'accord, quoi. Hein.
Oui, sauf que nous découvrons à cette occasion quel est le fond caché, que je n'ai pas vu arriver en 2005, hein, de la loi Leonetti, qui n'est pas seulement une loi pour les personnes en fin de vie, mais qui est une loi relative aux droits des patients et à la fin de vie. Il y avait là une subtilité sémantique dont on voit aujourd'hui la portée pratique, les conséquences. Et elle permet, si Vincent Lambert doit mourir demain, hein, je l'ai dit, faire mourir Vincent Lambert, c'est enterrer Hippocrate, c'est contraire au serment d'Hippocrate, c'est contraire au serment médical que j'ai prêté le jour où j'ai soutenu ma thèse et où j'ai été autorisé à exercer la médecine de façon indépendante. Il y a là quelque chose que beaucoup n'ont pas vu venir et que l'on découvre à cette occasion. Cette loi permet, si on veut, l'élimination des personnes handicapées, sévèrement handicapées aujourd'hui, et puis un peu moins sévèrement demain, et puis encore moins sévèrement après-demain.
Un très très grand merci, professeur.
Merci à vous, merci beaucoup.
Bonne soirée à vous.
Bonsoir.
Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur un point ?
Mais je vous en prie.
Vous avez posé la question, c'est sur le plan juridique. Pourquoi n'est-il pas transféré ? Le professeur Ducroux vous a parfaitement répondu. Je précise que nous avons fait pas moins de 8 procédures pour demander le changement de la tutrice, changement avec lequel était d'accord le parquet, le procureur de la République et le parquet général, parce que ça n'avait aucun sens. Dans ce genre de situation, on ne nomme jamais tuteur un membre de la famille quand il y a un conflit familial. Et pour demander le transfert, cela nous a été systématiquement refusé par le juge des tutelles, la cour d'appel et la cour de cassation. Systématiquement, et en réalité on sait bien pourquoi, c'est parce que Vincent, en réalité, doit rester là pour mourir, j'allais dire léonétiquement, avec un H, si vous me permettez ce néologisme. Et je le dis pourquoi, parce que...
En fait, il faut faire passer une idée sur le corps de quelqu'un, quoi.
Ouais, mais c'est terrifiant à dire, mais c'est la réalité. Et je voulais juste préciser également un point, une information à donner, c'est que il y a 3 semaines, alors que le médecin avait annoncé le 20 mai, il mettrait en œuvre l'arrêt des soins, qui ne sont pas des traitements, mais qui sont désormais considérés comme des traitements juridiquement, Vincent a fait une infection très importante. Il a été envoyé aux urgences. Ils l'ont bourré d'antibiotiques à des doses de cheval pour lui sauver la vie. C'est quelque chose d'invraisemblable. Pour qu'il puisse être ensuite mis à mort léonétiquement. Mais c'est David, le frère que je représente, qui m'appelle et qui me dit je l'accompagne aux urgences. Rachel, évidemment, n'est pas là puisqu'elle habite en Belgique, la tutrice. Et c'est moi qui devrais prendre la décision si jamais... Parce que si jamais on me dit il fait un arrêt cardiaque, c'est moi qui leur dirais vous ne le réanimez pas. Parce que nous sommes contre l'acharnement thérapeutique. Tout ça pour répondre à tous les fanatiques qui nous traitent justement de fanatiques. Le fanatisme n'est pas du côté qu'on dit, mais tout ça pour vous dire qu'ils lui ont sauvé les vies à plusieurs reprises. Ils ont traité des infections invraisemblables avec des doses d'antibiotiques invraisemblables pour lui sauver la vie, alors que dans le même temps, ils ne cherchent qu'à le faire mourir. C'est véritablement l'idéologie qui domine. Alors, vous me direz, peut-être qu'ils ont peur aussi qu'il meure et qu'on le leur reproche. Mais il n'y a pas que ça, je pense.
Alors maintenant, je voudrais me tourner vers Jean-Frédéric Poisson, parce que, bon, je voudrais savoir ce qu'il pense de ce cas par rapport à l'application de la loi qu'il a lui-même voté, et je pense qu'il a eu l'occasion d'intervenir sur cette loi, il a même eu l'occasion d'y réfléchir bien avant la loi en écrivant un livre sur le sujet.
Tu peux enlever... D'abord, le fait que c'est la loi de 2015 qui ouvre cette porte, plus que la loi de 2005. La loi de 2005 était raisonnable au nom des droits des patients et d'une certaine manière pour sécuriser la pratique médicale contre d'éventuels recours abusifs de la part des familles, on a fait considérer par le législateur, qui a bien fait, le fait que lorsque, d'une certaine manière, on reconnaît son impuissance devant l'état d'un patient qui va s'en aller, qui a une affection irréversible, qui est en fin de vie, etc., il n'est pas fautif d'arrêter les traitements et donc de provoquer, même indirectement, la mort de ce patient. Tant que la loi n'était pas votée, n'importe qui était le parent d'un patient qui mourait de cette façon pouvait incriminer les médecins en disant « vous n'avez pas respecté votre obligation qui est de défendre et de soigner la vie dans toutes circonstances ». Et donc, voilà. Donc cette loi de 2005 sur l'obstination déraisonnable a, je crois, clarifié les choses comme il le fallait. Et c'est une loi qui, je pense, sur le plan éthique, est acceptable. Et on parle du droit des patients parce que c'est le droit des patients et des familles des patients, d'une certaine façon, qui étaient en cause. La loi de 2015, je fais partie avec mon ami Xavier Breton des deux parlementaires qui ont voté contre en dernière lecture, un jeudi après-midi, à l'Assemblée nationale. Nous étions deux à voter contre cette loi ce jour-là. Elle comporte deux dangers dont nous voyons aujourd'hui les effets. Le premier, c'est que cette sédation terminale profonde comporte, dans son principe, une capacité de dérive euthanasique. Parce qu'elle peut être enclenchée une fois que l'affection irréversible est constatée, c'est-à-dire qu'on déconnecte complètement le constat de la vie qui se termine, d'un côté, et le déclenchement de la sédation terminale profonde de l'autre côté. Donc cette déconnexion entre l'imminence de la fin de vie et puis, comment dire, le déclenchement de la mort, en quelque sorte, est problématique en elle-même. Puis le deuxième sujet, c'est que la loi fait la différence entre les traitements et les soins. Et là, la question centrale est là. C'est-à-dire, il ne viendrait à personne cette idée qu'on pourrait donner des médicaments à quelqu'un d'un côté, puis arrêter de faire sa toilette, de lui couper les ongles, les cheveux, et de lui donner à manger, à boire. Sont ça les soins. Il y a bien d'un côté des besoins physiologiques fondamentaux qui sont ceux de vous et moi, même quand on n'est pas malade, et on reste une personne même quand on est malade, Dieu merci. Et d'un autre côté, ce qu'on reçoit en tant que malade, et non plus en tant qu'homme ou femme, c'est-à-dire les traitements qui sont adaptés à l'affection qu'on est en train de subir. Cette distinction entre les traitements et les soins, la possibilité donnée par la loi d'arrêter les traitements et les soins. C'est ainsi qu'est libellée la loi Léon Ticlès.
L'article 2, je le lis, si voilà. Vous permettez. C'est la,
je vous en prie.
La nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements
voilà.
Qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
C'est ça.
Voilà. C'est terrible ce texte-là.
On assimile ce qui relève des soins, qui relève de l'assistance et des premiers secours, en quelque sorte, à des traitements médicaux, effectivement, d'une perspective médicale. On met les cachets d'aspirine comme les litres. Ce qui autorise à peu près n'importe quel type de pratique, et c'est ce que Vincent Lambert est en train de subir. Deuxième remarque, nous sommes là, vous avez très bien dit, cher Christian Vanesse, tout à l'heure, il faut faire passer une idée sur un corps. C'est exactement ça. Vincent Lambert n'est plus un, malheureusement pour lui, n'est plus un patient ou quelqu'un dont il faut s'occuper, parce que comme vous le dites très, très justement, il n'est pas malade. Il y a sans doute des personnes handicapées ou des personnes qui accompagnent des handicapés qui nous écoutent. N'allez pas dire à un handicapé qu'il est malade, il n'est pas malade. Il est handicapé, il souffre d'un dysfonctionnement dans son organisme qui l'empêche d'accomplir pleinement les capacités que la nature humaine lui donne. Cette situation de Vincent Lambert en fait un emblème. Et je crois, comme Maître Triomphe, qu'il faut effectivement que, d'une certaine manière, je vais employer des mots extrêmement durs, mais ce n'est que le signe poli de ma colère personnelle, il faut un trophée de chasse, d'une certaine façon, à la loi Leonetti. Et c'est le premier. C'est le principe, c'est la porte d'entrée. Le grand Aristote dit « toutes les choses sont contenues dans leur principe ». Nous sommes dans la première occasion réelle d'application de cette loi, emblématique, spectaculaire, médiatisée. Il faut que ça fonctionne. Et il faut que la toute-puissance qui est en germe dans la loi Leonetti, qui a justifié mon opposition, puisse s'exprimer aussi dans cette circonstance.
Mais soyons clairs, il faut que ça fonctionne au-delà de ce que l'on pouvait penser qu'elle était, cette loi. Personnellement, je ne l'avais jamais interprétée comme ça.
Moi, j'ai absolument toujours interprété cette loi comme
Moi, je n'ai voté que la première.
C'est pourquoi j'ai voté contre toutes les lectures de la loi Leonetti à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on n'était pas très nombreux, pour tout vous dire. Ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, mais si je devais recommencer, je le referais. Troisièmement, il y a un mensonge philosophique derrière tout ça, qui consiste à assimiler la dignité humaine à la perfection de l'activité consciente. Et ça, pardon.
Terrible idée. Hein.
Si, c'est dramatique.
Parce que ça rejoint quelles idéologies
On a deux problèmes, chers confrères. Le premier problème, si on applique avec toute la rigueur qu'elle est censée contenir cette assertion, selon laquelle, à partir du moment où la faculté de conscience ne fonctionne pas bien, vous perdez la protection qui est due à votre dignité. Mais ne vous endormez jamais. Ouais. Ne vous endormez jamais, c'est un conseil. Il peut vous arriver à peu près n'importe quoi. Et par ailleurs, la deuxième, le deuxième, et qui est pire, là, je dis presque ça sous la forme de la boutade, mais si on veut bien y réfléchir deux minutes, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais surtout, si on fait de la capacité, de la perfection de l'activité de conscience cognitive, le signe de la présence de la dignité dans l'homme, et donc le droit d'être protégé au titre de la loi, eh bien, on en vient exactement à la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que la reconnaissance de votre dignité provient non pas de ce que vous êtes, c'est-à-dire un être humain, mais du regard que les autres portent sur vous. Vous êtes digne tant qu'on vous considère digne. Et à ce moment-là, pour le coup, absolument toutes les idéologies, y compris les plus terribles, y compris celles que les mêmes défenseurs de la loi...
Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont un peu moins hommes que les autres.
Il y a ceux qui sont hommes et ceux... Voilà,
voilà. C'est, non, mais c'est terrible quand vous y réfléchissez bien.
On ne peut pas faire de brèche dans la dignité humaine. Parce que la dignité ne peut dépendre ni du regard qu'on porte sur elle, chez quelqu'un d'autre, ni de la perfection avec laquelle on est capable d'exercer les facultés que la dignité nous procure. La dignité, c'est la capacité d'être autonome, aurait dit Kant, d'être libre, aurait dit les philosophes classiques, et d'avoir, de disposer le plus pleinement possible de toutes les facultés qui permettent l'exercice de cette liberté, ce qui fait notre marque dans l'univers où nous sommes. À partir du moment où l'on dit que c'est la perfection de ses capacités qui fait la dignité, alors il faut se dépêcher de supprimer tous ceux qui sont imparfaits, et Dieu sait qu'il y en a. Donc ce n'est pas la perfection, c'est la capacité à qui font de la dignité. À partir du moment où je suis capable de, même si je n'y arrive pas, à partir du moment où je suis capable de, je dois être considéré comme digne. Et à ce titre, Vincent Lambert, qui n'est pas, en fin de vie, ça a été amplement dit par Maître Triomphe et par le docteur tout à l'heure, qui ne souffre pas d'une affection irréversible, c'est pas une maladie au sens où, je ne comprends même pas pourquoi il entre dans le champ, pardon de parler trivialement, de la loi Cleissonetti, il n'est pas du tout concerné par ça, mais je comprends par ailleurs que, et Maître Triomphe n'est pas entré dans le détail sur ce plan, et je crois qu'il fait bien, parce qu'il y a des choses là-bas, des tensions entre les familles dans la famille qui nous échappent complètement, qui ne simplifie certainement pas ni la clairvoyance, ni, comment dire, ni les délibérations. Je comprends bien que les personnes dont la vie est détruite en voyant cette vie qui n'avance pas en quelque sorte se disent « enfin, pourvu que ça se termine », il pourrait y avoir une forme de soulagement, ça s'entend sur le plan humain. Ça n'est pas acceptable ni sur le plan juridique, ni sur le plan éthique, mais ça s'entend, ça c'est évident. Mais ça n'est pas ça qui doit être la référence du jugement. C'est une personne pleine et entière. Elle n'est pas en fin de vie, et à partir du moment où elle n'est pas en fin de vie, on n'a pas droit d'attenter à sa vie, c'est très simple.
Je vais me tourner maintenant vers Patrick Bray, parce que l'avocat s'est exprimé, le médecin s'est exprimé, en l'occurrence le législateur s'est exprimé.
Et philosophe.
Oui, oui.
Mais c'est important.
C'est important. C'est important. Mais le philosophe, je voudrais qu'il leur donnait la parole tout à l'heure sur un autre plan. Mais là, c'est le législateur qui a quand même bien replacé la loi Leonetti dans sa réalité. Donc, Patrick Bray. Patrick Bray, lui, encore une fois, il est à la tête d'une association, Rivage, et qui est une association, comme on dit, pro-vie, qui défend la vie. Et participe à ce titre à toutes les manifestations pour la vie qui ont lieu à Paris. Il est allé à Reims pour manifester auprès du CHU. Bon, alors, moi, je voudrais lui demander trois choses. La première, c'est qu'est-ce qui vous motive, Patrick Bray, dans ce combat. La deuxième, c'est quel prix vous attachez à la vie de quelqu'un qui, effectivement, a une conscience minimale? Et enfin, comment allez-vous continuer le combat au-delà de la décision qui sera rendue vendredi par la Cour de cassation?
D'accord, donc il y a trois éléments.
Alors, parlez-nous un peu de votre association, pour commencer.
Oui, alors je vais être assez bref, parce que... on est sur un sujet qui est évidemment dramatique, mais en fait, tout se rejoint dans le respect de la vie, finalement. Et d'ailleurs, la Marche pour la vie, que nous avons eu le plaisir de cofonder avec l'association Choisir la vie, et à l'époque, le Comité pour sauver l'enfant à naître, et puis avec d'autres qui nous ont rejoints.
C'est des questions qui concernent plutôt l'avortement que le,
alors, au départ,
que
oui,
la fin de vie. Hein.
Bien sûr, mais...
Mais est-ce que c'est si éloigné que ça?
Non, parce que nous sommes évidemment attachés au respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. Et à ce titre, et puis d'ailleurs, les parents de Vincent Lambert viennent eux-mêmes à la marche pour la vie régulièrement et ont même témoigné.
D'ailleurs, curieusement, c'est un gynécologue, en fait, le père de Vincent.
Oui, hein, qui était un des précurseurs d'ailleurs, des combats contre la veille.
Voilà, et tout à fait hostile à la loi Veil. Ça, c'est un.
Il y a une logique. Hein.
C'est bon, je ne vais pas souligner tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a. Non, mais c'est pour montrer que quand vous dites que le combat est idéologique, c'est vrai, quoi. Hein. C'est pas par hasard aussi qu'on les vise, ces gens-là, quoi.
Complètement. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui en sous-main travaillent en général sur ces lois qui touchent à la vie humaine. Encore une fois, de sa conception jusqu'à la mort, qui est de moins en moins naturelle, malheureusement. Mais je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites jusque-là, et je pense qu'il faut absolument, au plan humain, récuser les termes effectivement d'acharnement thérapeutique. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ce n'est pas un acharnement thérapeutique du tout, puisqu'en fait, on n'est pas en train de soigner des maladies qu'aurait éventuellement Vincent Lambert. Et puis, d'autre part, les termes d'état végétatif. Personnellement, je trouve ça assez horrible, le terme de végétatif pour définir un patient, parce qu'on n'est jamais un végétal. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de cas assez récents, dont on pourrait parler, mais on va brièvement. Mais par exemple, l'histoire de Vincent Lambert rappelle celle qui s'est passée il y a quelques années aux États-Unis de Terry Schiavo, qui était une femme qui était exactement dans la même situation que Vincent Lambert. Et puis là, c'était son mari qui insistait pour que on la prive des soins élémentaires, et alors que les parents et d'autres membres de la famille voulaient absolument qu'elle puisse vivre. Donc elle avait des réactions, certes diminuées, mais bien présentes. Et puis finalement, c'est le mari qui a fini par obtenir gain de cause. C'est lui qui a fait que, en fait, cette femme est morte de dénutrition. Ça a été un calvaire épouvantable, et c'est ce qu'il faut éviter à Vincent Lambert.
Avec cette précision que pour Terry Schiavo, il y avait 800 000 euros, dollars plutôt, d'assurance vie à la clé, et que le mari avait refait sa vie, et qu'il avait quelque envie d'être libéré.
Voilà.
Mais c'était une abomination.
Je rejoins aussi ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Jérôme Triomphe, quand il disait, attention, on ne sait jamais ce qu'entend, ce que ressent une personne que l'on nomme abusivement, dont on dit que cette personne est en état végétatif. On ne sait pas ce que... Moi, je lisais tout récemment le livre de Angèle Liébi, qui s'appelle « Une larme m'a sauvé ». Angèle Liébi était considérée... Enfin, on disait, elle est dans le coma, mais elle était considérée quasiment comme morte, quoi, et on se permettait de dire tout et n'importe quoi autour d'elle... Il y a un médecin qui, pour montrer qu'elle ne réagissait pas, lui tordait le sein devant des étudiants en médecine pour dire, voyez, c'est comme ça qu'il faut faire pour voir si la personne ressent ou pas. Comme elle bouge pas, comme il n'y a pas de réaction, c'est qu'elle ne ressent rien. Bon, en fait, elle souffrait le martyre, mais elle pouvait pas l'exprimer. Dieu merci, un jour, quand sa fille vient la voir pour lui dire ses adieux, parce que l'équipe commence à se demander un petit peu quels organes on va lui prélever, vu qu'il considère que voilà, c'est la fin pour elle, eh bien, elle note que sa mère va pleurer, donc c'est une larme qu'elle va avoir, et elle va dire à ce moment-là, hors de question, on se bat pour ma mère. Et quelques temps après, cette dame est sortie du coma et donc a écrit ce livre. Et elle a vécu des moments très difficiles, et surtout, elle était angoissée, parce qu'elle ressentait bien que plus les jours passaient, plus on voulait attenter à sa vie. Voilà. Donc, ça, c'est pour répondre un petit peu à vos deux premières questions. Et alors ensuite, sur le combat, écoutez...
Est-ce que oui. Le combat se continuera après, voilà.
Mais
moi, je peux vous le confirmer,
il est nécessaire.
Oui.
Il est...
Sur un plan judiciaire, c'est pas fini, je vous garantis.
Il y a l'aspect, effectivement, judiciaire, et je pense que ça va... Voilà, on peut faire confiance aux avocats de Vincent Lambert. Je pense que il faudrait passer peut-être à une phase plus militante. Jusqu'à présent, on est beaucoup dans le respect des procédures, etc. Mais je me demande s'il ne manque pas, en fait, une base militante, voyez, qui prendrait un petit peu, enfin qui viendrait en force d'appoint et même, alors quand je dis ça, c'est des collages d'affiches, c'est des distributions de tracts, c'est organiser des meetings dans les villes, c'est faire des rassemblements.
Des grandes réunions publiques, vous voulez dire?
Oui, voilà, tout à fait.
Je peux réagir là-dessus?
Allez-y, maître.
Vous avez raison. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait une phase plus militante, mais je crois malheureusement que le peuple, d'une manière générale, se contrefiche de ces questions-là. Et que
bon, on fait tout pour ça, hein, les médias font tout
vrai,
pour ça.
C'est vrai, il est tellement englué par le discours dominant qu'en fait il ne réfléchit plus. Et même, j'allais dire, parmi des personnes qui seraient sensibles à ce sujet, les gens ne se sentent pas concernés. Et le problème, c'est que les gens projettent la plupart du temps leur peur de bien portant sur ces situations-là, en se disant ce que nous-mêmes nous disons tous, nous ne voulons pas vivre handicapés, nous ne voulons pas vivre en fauteuil roulant, nous ne voulons pas vivre comme Vincent Lambert.
Oui, alors moi, vous voyez, ce que je crains beaucoup, c'est que, justement, à partir du moment où on va... Pardon. À partir du moment où on a ce cas présent, si malheureusement nous retrouvons dans la situation similaire à celle de Terry Schiavo, c'est-à-dire où Vincent Lambert est progressivement dénutri, déshydraté, etc., il va souffrir un martyr et le lobby pro euthanasie va s'en saisir pour dire oui, c'est vraiment trop atroce, donc maintenant il faut passer à une méthode qui sera le cocktail lithique.
Moins hypocrite, en tout cas, oui,
voilà,
bien sûr.
Voilà, et exactement. Et comme l'opinion publique est complètement préparée, parce qu'effectivement les médias nous savonnent la planche en permanence, les gens seront prêts à accepter l'inacceptable. Et c'est là que je voudrais quand même signaler une chose, c'est que les gens pensent que on peut, comme ça, grâce à une petite piqûre magique, ne pas souffrir, mettre fin à la vie, etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu des études qui ont montré, sur les condamnés à mort aux États-Unis, notamment, il y a quelques années, parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des États où c'est la chaise électrique, il y a d'autres États où c'est la chambre à gaz, et puis il y a des États où on s'est dit, on a cru qu'on allait être un peu plus humain quand même, et puis on s'est dit, on va faire une injection. Donc, très bien, injection avec sédation, etc. Bon. Et puis, il y a eu des études qui ont été faites, notamment à partir du sang des condamnés juste après, parce qu'en fait, il y a des marqueurs de la souffrance qui s'expriment à ce moment-là dans le sang, parce que ben, ça fait varier des taux d'hormones, ou enfin bon, moi je ne suis pas médecin, mais ça se vérifie. Eh bien, on a constaté qu'en fait, ces gens avaient souffert énormément. Et en fait, la sédation les empêchait d'exprimer leur souffrance, mais ça ne signifiait pas qu'ils ne souffraient pas à ce moment-là. Donc voilà, donc moi je mets en garde les gens qui se disent que c'est la solution de facilité, qui réfléchissent bien à quoi ils s'exposent.
Alors il reste quand même un fait qu'on n'a pas vraiment souligné, c'est que la loi Leonetti prévoit que la personne est soit désignée une personne de confiance qui va prendre la décision à sa place, soit elle essaie des recommandations. Or dans, le cas de Vincent Lambert, il n'y a pas ça. C'est un cas très particulier. Mais c'est ce qui fait l'acuité de ce problème. Alors que, effectivement, s'il avait laissé des recommandations, s'il avait désigné une personne de confiance, il n'y aurait même pas de débat actuellement.
Hein. Alors c'est pas tout à fait exact. Allez-y. La personne de confiance, dans la loi de 2005, donne son avis. S'il n'y a pas de personne de confiance, c'est la famille. S'il n'y a pas de famille, c'est le proche. Avec l'affaire Vincent Lambert, ils ont été échaudés. Donc, désormais, depuis la loi de 2015, la personne de confiance donne le témoignage de la volonté éventuellement antérieurement exprimée du patient. À défaut, c'est la famille. À défaut, c'est les proches. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout le problème de la loi Leonetti. D'ailleurs, je me permettrai une objection à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais quand on dit il n'entre pas dans le champ de la loi Leonetti, si, parce que Leonetti lui-même l'a reconnu en 2014, avant la loi de 2015. Quand le Conseil d'État l'a appelé comme amicus curiae devant, dans le cadre de la pression Vincent Lambert, Leonetti a dit simplement « Oui, ma loi s'applique à Vincent Lambert ». C'était son intention probablement caché, et de fait, un certain nombre ont pu être abusés par cette loi, parce que quand on la lit effectivement, la loi Leonetti, elle peut être appliquée de manière parfaitement conforme à ce qui devrait être. Mais en réalité, son intention était celle-là. Et ce qu'il y a derrière tout cela, la personne de confiance, le témoignage de la volonté exprimée, c'est quoi ? C'est le principe d'autonomie de la volonté. Et ça, c'est le principe d'autonomie de la volonté. On va peut-être dériver après sur les questions philosophiques un peu plus, mais
je ne sais pas. Jean-Frédéric Poisson va prendre la parole.
C'est très important parce qu'en réalité, c'est cela qui est la cause des décisions judiciaires de condamnation à mort, je le dis comme ça. Pourquoi ? L'autonomie de la volonté, c'est introduit par la loi de Kouchner de 2002. C'est la notion selon laquelle l'homme est le principe de lui-même. L'homme naît sans créateur, alors même qu'on soit croyant ou pas, sans famille, sans rien. Et c'est vraiment l'individu roi. Et c'est le principe d'autonomie de la volonté veut que l'homme décide pour lui-même ce qu'il veut. Alors qu'une personne veuille ne pas subir une chimiothérapie parce qu'il est épuisé, on comprend, c'est sa décision. Mais là, c'est vraiment parce qu'il avait voulu, c'est ce qu'on va dire de Vincent Lambert. Je vous donne le raisonnement quand même du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit le fait qu'il soit en situation d'être végétatif, qu'il ne puisse pas s'exprimer, même s'il n'avait aucune conscience, ne justifie pas une situation d'obstination déraisonnable. Mais c'est ce qu'il aurait voulu. Donc, il est en situation d'obstination raisonnable. Et on est vraiment sur le principe d'autonomie de la volonté. Et c'est quelque chose, je crois, qui est très important à dire. Une petite réaction également sur ce que vous aviez dit. On n'en a pas parlé, la famille. Vous avez raison, il y a des difficultés familiales qui ont été créées par la médecine. Parce que la famille était unie jusqu'à présent. Tout le monde n'était pas d'accord sur tout, sur les questions religieuses, politiques, philosophiques, c'est une évidence, mais tout le monde s'entendait bien. Et j'en ai les preuves. Je l'ai communiqué devant les juridictions, Livre d'or, Rachel, Vincent, écrivant les mots les plus affectueux, les plus tendres à Viviane et Pierre. Cette famille était unie. Et un jour, un médecin, le docteur Carrigère, a tout fait exploser.
Voilà. Le premier médecin du
CHU. Le premier médecin. Et il a tout fait exploser. Soins, hein. Et depuis, les positions sont irréconciliables. Mmh. Alors que la médecine, jusqu'à présent, que faisait-elle ? Parce que tout cela existait avant. Faut pas se leurrer, évidemment. Quand il y avait une opposition d'un membre de la famille, eh bien, on allait dans le sens de la continuation des soins. On cherchait le consensus. On cherchait la paix familiale. Et avec l'application de la loi Leonetti à Vincent en 2013, pardon, eh bien...
Avril 2013.
La première décision de sans avoir prévenu les parents.
Oui, oui.
Ni les frères et sœurs.
C'est effrayant.
On a fait exploser cette famille, alors que...
Il était 17 jours, je pense.
31 jours sans alimentation et avec une hydratation réduite à 20 centilitres par jour. Eh bien, voilà. Et la réalité, c'est que Rachel Lambert... Pendant 5 ans, l'épouse s'en est occupée de Vincent avec un dévouement admirable. On peut très bien comprendre, comme vous l'avez dit, sur un plan humain, qu'à un moment, elle veuille lâcher prise. Et c'est la pratique, l'expérience de ce que connaissent tous les soignants. C'est un membre de la famille qui va remplacer l'autre. On ne jette la pierre à personne. On peut le comprendre. C'est humain. Mais ça ne justifie pas qu'à un moment, elle dise qu'il aurait voulu mourir pour provoquer sa mort. Et je termine juste là-dessus pour dire que si Rachel avait été entourée par une véritable équipe de médecins qui avait accompagné Rachel et qui avait dit « Écoutez, vous lâchez prise. » On va le transférer ailleurs. On n'aurait jamais eu de l'affaire Vincent Lambert et Vincent serait actuellement bien soigné.
Jean-Frédéric Poisson. Et après, je donnerai la parole aux auditeurs parce que manifestement, cette émission.
C'est curieux.
Élève beaucoup de réactions. Hein. Voilà.
Deux remarques brèves, peut-être trois d'ailleurs. Premièrement, je voulais dire à Maître Triomphe que c'est pas parce que le rapporteur d'une loi considère qu'elle s'applique dans tel cas que pour autant elle s'applique. C'est-à-dire, moi qui étais rapporteur de quelques lois à l'Assemblée nationale, de temps en temps, le juge d'ailleurs regarde l'intention du législateur.
Oui, mais dans son ensemble, je fais une parenthèse. Mais interprétation téléologique, le juge, il s'adresse à Leonetti, ça lui suffit.
Oui, mais
j'entends bien que vous êtes législateur aussi et que ce n'est pas votre intention.
Il y a une forme d'abus de pouvoir.
Mais vous avez raison. Voilà. Mais vous avez raison.
C'est ce que je pense en tout cas. Vous avez raison. En l'espèce. Deuxièmement. Je voudrais insister à mon tour sur le fait que c'est un conflit entre la toute-puissance d'un côté et le mystère de l'autre côté. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes. On est incapable de dire de quoi ils sont conscients. Quelqu'un qui est capable de résister pendant 31 jours à une absence de nutrition et une hydratation minimale, enfin, pour quelqu'un qui a envie de partir ou de mourir, enfin, c'est une... Au contraire, une preuve de magnifique énergie, donc ça devrait être un peu plus considéré dans l'appréciation de la volonté de Vincent Lambert. Et dernière remarque, Nous avons eu à débattre à l'Assemblée nationale la question des directives anticipées, c'est-à-dire de ces recommandations, d'expression des souhaits qu'on est capable d'écrire pour le cas où on se trouverait dans une situation comparable. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, j'ai essayé de commencer, moi, à créer des directives anticipées. J'invite nos auditeurs à faire l'exercice. C'est-à-dire, vous avez une feuille blanche, puis vous imaginez dans la situation... je considère que c'est impossible. Sauf à dire que, dès que j'ai un ongle cassé, mais imaginons même, vous vous retrouvez, sortez d'un accident de voiture avec les deux jambes en moins, personne ne peut dire, et même pas vous, qu'au moment où vous êtes bien portant, vous n'aurez plus envie de vivre avec deux jambes en moins. En fait, on n'en sait rien. Tout ça est évolutif. Et je trouve que la violence la plus importante qui est faite à la personne humaine, c'est le mystère, cette espèce d'ignorance totale de ce qui se passe dans la tête et le cœur d'un être humain qui est dans cette situation. Et deuxièmement, c'est faire bien peu de cas de l'attachement à la vie des personnes, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Et je termine en disant que cette vie aussi, celle de Vincent Lambert, a un prix. Elle a une valeur. Et pour le croyant que je suis, probablement même, et je n'en sais rien bien sûr, mais probablement même que, pour moi qui crois à la communion des saints et à la présence du Seigneur auprès de tous ceux qui souffrent, je ne serais pas étonné qu'il y ait une affection particulière du ciel à son endroit et que, à cause et grâce à cette affection, eh bien, il fait aussi du bien autour de lui sans qu'on le sache. Mais là, on est dans le mystère en plein. On est au-delà de la philosophie, mon cher confrère, mais on a le droit aussi d'y aller.
Je pense que chacun apprécie la force de ce que vous venez de dire. Alors, plusieurs questions et remarques des auditeurs, et il faut leur donner la parole parce qu'ils sont très très nombreux. Alors, il y en a une, c'est assez simple. Maître Triomphe, que devient le docteur c'est Karinger, c'est ça, Karinger?
Il a quitté ses fonctions à Reims. Il a pris la direction générale d'une chaîne de maisons de retraite qui s'appelle Maison de Famille. Mais il vit toujours dans la région de Reims et il est toujours sur les plateaux télé pour délivrer les oracles dans l'affaire Vincent Lambert. Je précise également qu'il fait l'objet d'une procédure pour violation du secret professionnel. Ah oui. Puisqu'il a... Oui, c'est nous qui avons porté plainte. Et donc, nous sommes à l'instruction à ce sujet parce que cet individu a écrit tout un livre pour violer le secret médical. C'est abject.
Alors, deuxième question. Avez-vous vu le film à propos d'Henri de Ford?
Avec Henry Ford, apparemment.
Avec Henry Ford, c'est un auteur.
C'est un très bon acteur.
Ah bon, je ne connais pas. Si oui, vous avez vu ce qu'on a refusé, comme soit à Vincent Lambert. Maître Triomphe, merci à vous de tout ce que vous avez fait et ferez, je l'espère.
Merci voilà. À cet auditeur.
Alors, vous avez vu le film? Non, vous
l'avez non
vu.
Pas moi.
Ah bon, bah alors qui l'a vu ce film? Parce que moi, je ne l'ai
pas vu non plus.
Je pensais que c'était un film de John Ford et que c'était une erreur. C'est un acteur, il paraît, Henry Ford. Je ne connais pas cet acteur. Bon. C'est quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là? Personne ne peut ici...
Henri Fonda.
Oui, mais ça sent le film en noir et blanc aussi. Hein, donc,
parce que ça correspondrait à la période Ford.
Alors si c'est Henri Fonda, je ne serais pas trompé, là, parce qu'Henri Fonda, je connais. Bon, mais écoutez, on réfléchira pour la fois prochaine, parce que là, je ne sais pas. Là, je suis incapable de répondre. Si l'État s'est pourvu en cassation, cela ne peut être que sur ordre de Macron, l'affaire étant trop importante. Mais celui-ci est hypocrite et il a laissé passer les élections européennes afin de s'attirer, etc. Voilà.
Mais c'est vrai.
C'est même pire que ça.
Ah, alors là, je ne m'attendais pas à ce type d'intervention.
Je vais te le modérer.
Je pensais qu'il allait minimiser, pas du tout.
Ah non, pas du tout.
Allez-y, cher confrère.
Il y a une décision d'appareil de justice. Tout ça se décide à la chancellerie. Ouais. C'est une évidence. Si ça se décide à la chancellerie, je ne vois pas comment le chef de l'État pourrait pas être au courant. Premier élément. Deuxième élément.
Et vous avez eu la charge du procureur en plus.
Non, mais rien de tout ça n'est fait.
C'est sur commande, tout ça. C'est clair.
Mais je me permets de comparer ici au risque peut-être de brutaliser certaines oreilles, y compris peut-être les vôtres, chers convives, cette espèce de folie qu'il y a, ce paradoxe infernal qu'il y a entre l'énergie que déploie ce gouvernement à sauver de la peine de mort 11 djihadistes emprisonnés en Irak d'un côté, et à s'acharner contre la vie d'un pauvre homme qui, on ne sait pas d'ailleurs s'il demande à vivre ou à mourir, enfin pour l'instant il est vivant. Et le droit interdit de supprimer la mort en dehors des cas de légitime défense, c'est en tout cas la lettre de la loi française. Il y a là non pas un paradoxe, malheureusement, ça a l'air paradoxal.
Non, c'est très logique.
C'est parfaitement cohérent.
C'est très logique.
J'abonde entièrement.
Il y a une séduction chez certains pour la transgression, je crois.
Non, mais j'abonde entièrement.
Quelque chose comme ça.
Et c'est ça qui me terrifie, c'est de voir le déchaînement de tout un appareil d'État, parce qu'il faut voir que nous en avons appelé au président Macron. En plus, sur un plan politique, c'était tellement simple pour lui d'apparaître comme le président jupitérien, délivrant son droit de grâce. On lui demandait quoi ? On lui demandait simplement de faire respecter la parole internationale de la France et de demander au ministre de la Santé de faire respecter les mesures provisoires. Ce n'était pas grand-chose. On ne lui demandait pas de prendre parti sur le fond. Et il a prétendu qu'il ne pouvait rien faire. C'est quelque chose qui est odieux et qui est en plus absurde pour lui, parce qu'il aurait pu réellement apparaître comme un grand président. Il est évident qu'il a tout validé.
C'est du Ponce-Pilate. Hein,
Patrick Bray.
Oui, tout à fait. Non, mais je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. C'est très, ça fait, voilà, s'il s'en est lavé les mains, alors que il dit que pour Vincent Lambert, il peut pas soi-disant intervenir. Et par contre, alors dans, je sais pas, l'affaire Benalla, là, par contre, il s'en prive pas. Donc il y a des choses étonnantes.
Non, mais c'est certain. Je voulais rebondir sur ce que vous avez évoqué, le procureur général François Molins.
Oui.
Quelque chose de très intéressant et très important qu'il a requis lundi, qu'il avait écrit dans son réquisitoire, dans son avis plutôt, comme on dit à la Cour de cassation, qui est stupéfiant. Il dit deux choses stupéfiantes, enfin une chose vraie, une chose stupéfiante. Vous ne pouvez pas faire de la vie la valeur suprême, comme si la vie n'était pas une valeur suprême par rapport à toutes les libertés, puisque c'est évidemment un prérequis, parce que dans ce cas-là, vous remettriez en cause la loi Léonie Ticlès et la loi Veil sur l'avortement.
Et voilà.
Mais il a tout dit.
Comme d'habitude.
Il a tout dit. Sauf que, au demeurant, ça ne serait pas le cas, puisqu'on demande simplement le respect de mesures conservatoires pour que le CDPH examine le recours. Mais on voit ce qu'il y a derrière. Mmh. En fait, ils sont terrorisés à l'idée qu'on puisse dire que la vie est une valeur suprême.
Très intéressant, très très intéressant. Chers amis, selon vous, est-il complotiste de penser que si Vincent Lambert n'avait pas été d'une famille traditionnaliste, personne n'aurait parlé de cette affaire? Il est très facile de présumer qu'on peut accuser les cathos tradis de s'opposer d'une manière archaïque et obscurantiste à une action tout à fait légitime aujourd'hui. Autrement dit, c'est dire bon, c'est un règlement de compte idéologique, quoi.
Il y a un règlement de compte idéologique qui permet de justifier la mort de Vincent. Alors, la réalité, c'est que moi, malheureusement, depuis l'affaire de Vincent il y a 6 ans, j'ai été saisi de près d'une dizaine d'affaires et qui concernent tout le monde. J'ai défendu des patients juifs orthodoxes, musulmans, parfaitement athées, catholiques, et en réalité, cela vise malheureusement tout le monde. La plupart d'ailleurs des personnes qui défendent les patients comme Vincent n'ont pas de religion et défendent simplement notre humanité. Mais ça, c'est assez inaccessible aux médias bêlants qui prétendent nous informer.
Alors, ici, j'ai un auditeur qui, en revanche, est tout à fait hostile à la position globale des participants à cette émission. Voilà ce qu'il dit. Nul ne peut dire si Vincent Lambert n'a pas un minimum de conscience. Si tel est le cas, maintenir couché sur un lit depuis maintenant plus de 10 ans une personne même faiblement consciente de sa situation et lui infliger une torture inimaginable, une société qui n'a même plus le courage de faire cesser par la mort un pareil martyr, comme elle n'a plus le courage non plus de supprimer ses criminels les plus effroyables, est une société qui se suicide. Je trouve, mais c'est un avis personnel, que votre plaidoyer pour le maintien en vie d'un martyr qui s'appelle Vincent Lambert est quelque chose d'obscène.
Alors,
non mais là je vous vois tous les trois, je vous les vois tous les trois bondir, mais c'est bien parce que c'est le vrai débat en fait. Il y a des gens qui pensent ça, bien sûr.
Encore une question comme ça, je vais prendre des cachets parce que c'est pas facile à comprendre cette position.
Ouais.
Autrement dit, au nom du respect de la vie, il faudrait tuer les gens. C'est ça que je comprends. C'est tout de même particulier comme raisonnement. La solution, personne ne veut maintenir en vie Vincent Lambert dans les conditions où il est.
Exactement.
C'est voilà. Ça le sujet. Ça a été parfaitement dit tout à l'heure et par Monsieur Bray et par Maître Triomphe. Le sujet, c'est que M. Vincent Lambert est une personne lourdement handicapée. Il y a en France des tas d'établissements spécialisés qui savent accueillir ces personnes, dont c'est le métier, avec des professionnels qui leur rendent service, et qui reconnaissent suffisamment de valeur à la vie humaine, même lourdement handicapée, pour s'en occuper dignement. C'est là que Vincent Lambert devrait se trouver. C'est certainement pas incarcéré dans un hôpital comme il l'est depuis 10 ans.
C'est donc la bonne réponse.
Alors que ça soit une torture, bien sûr, c'est tout le problème. Mais la solution n'est pas le maintien dans la torture. Personne ne dit ça.
Et puis, faut-il à ce moment-là exécuter Michael Schumacher aussi ? Michael Schumacher est dans la même situation, à ma connaissance.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelle situation il est.
Non, mais il a l'air plus grave quand même que c'est là pour le coup.
On ne sait pas.
Voilà, enfin, en tout cas.
Deux réponses à cet auditeur.
C'est vrai.
Mais vous avez raison parce que.
Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cas semblables.
Mais il y en a. En France, on en a 1700. Deux réponses à cet auditeur. La première, c'est que le docteur Sanchez a utilisé exactement le même argument que lui. L'argument qui consiste à dire Vincent est enfermé dans sa chambre, dans une situation qui est très difficile pour les soignants, c'est un des arguments pour provoquer sa mort. C'est éblouissant.
Là, il faut sauver les soignants.
Il crée la situation qui va justifier la mise à mort. C'est terrifiant, et pourtant, il l'a écrit. Ouais. Hein, de manière subtile, mais il l'a écrit. Enfin, subtil, c'est peut-être un bien grand honneur que je lui fais. Deuxième élément de réponse, cher auditeur, allez taper dans Google Terry Wallis. W-A-2-L-I-S. Terry Wallis, c'est un garçon qui a été diagnostiqué végétatif pendant 23 ans. Végétatif, c'est état d'éveil non répondant. Il ne manifeste pas de conscience. Et au bout de 23 ans, il a recommencé à recommuniquer. On s'est aperçu en fait qu'il n'était pas végétatif. Il avait été mal diagnostiqué. Je rappelle qu'il y a 41% d'erreurs de diagnostic, dont fait partie évidemment Vincent. Il fait partie des risques de 41% d'erreurs. Et Terry Wallis, qui en fait n'était pas en état végétatif, il n'était pas en conscience altérée, il était en loquet de syndrome, a dit « Pendant 23 ans, je hurlais dans mon corps. J'ai vécu 23 ans de torture parce que personne ne m'entendait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis content d'être en vie. »
Jean-Frédéric Poisson.
Oui, un complément. Ma réaction de tout à l'heure était peut-être un peu vive. Tout de même, je pense que le propos l'était aussi... On voit bien toute la difficulté qu'il y a pour des gens qui assistent à cette vie, au déroulement de cette vie de Vincent Lambert, qui ne sont pas spécialement ni médecins ni quoi que ce soit, à comprendre ce qui se passe. Parce que je me souviens des premières communications de 2013, et moi j'ai réagi à l'époque comme quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Je ne connaissais pas la situation précise. J'ai pris une position qui consistait à dire... De deux choses l'une, soit on est dans le cas d'une obstination déraisonnable, auquel cas la loi s'applique, soit on n'y est pas, auquel cas elle ne s'applique pas. Comment quelqu'un qui n'est ni juge, ni médecin, ni impliqué dans cette affaire peut-il dire ou faire autre chose que ça ? L'opinion publique qui assiste à tout cela, je ne vois pas quelle forme d'expertise elle pourrait avoir, sauf que 6 ans se sont écoulés depuis. Et il y a beaucoup de signaux, il y a toute la bagarre juridique qui a été conduite par les parents de Vincent Lambert qui nous donnent quelques indications sur l'état réel. De Vincent Lambert lui-même. Et je crois que si on peut avoir quelques interrogations et se dire, après tout, les médecins sont plus compétents que moi, à l'origine, c'est leur métier, c'est pas le mien, aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. Ça, c'est tout à fait certain. Donc je comprends qu'on puisse avoir des hésitations, cette difficulté de cas pareil. Je comprends qu'on ait envie de faire confiance aux médecins, parce que dans une société qui n'a plus confiance dans ses médecins, si vous allez chez le médecin à chaque fois qu'on vous fait une ordonnance parce que vous n'avez pas confiance en votre médecin, ça n'en finit plus. Donc si effectivement il n'y a pas cette confiance minimale dans le corps médical qui a statué sur des choses si difficiles que ça, d'une certaine manière il n'y a plus de santé publique possible et peut-être même pas de société tout court. Donc tout ça est très très difficile à appréhender par l'opinion publique qu'on n'aide pas en l'espèce. D'abord en lui mentant à longueur de temps et deuxièmement en lui présentant... la face cachée, d'une certaine, enfin, toute la face visible émergée de cette situation, sans lui donner ni les ressorts ni les enjeux.
Alors ici, on me pose une question sur le fait que j'ai voté la loi Leonetti. Alors je précise, j'ai voté la première loi Leonetti. Et effectivement, lorsque nous avons voté cette loi, nous l'avons votée à l'unanimité. Et c'était après des dizaines d'heures d'auditions extrêmement précises. Nous avons entendu beaucoup de médecins, nous avons entendu des infirmiers, nous avons entendu pratiquement toutes les
toutes les options philosophiques et religieuses possibles sur le sujet. Et encore une fois, à l'époque, notre souci était bien la fin de vie d'une personne gravement malade.
C'était clairement le sujet de l'acharnement thérapeutique.
Voilà, c'était le problème de l'acharnement thérapeutique. Et le cas de un cas comme celui de Vincent Lambert n'était absolument pas évoqué dans nos débats. C'est la raison pour laquelle je n'ai absolument aucune honte d'avoir voté cette loi. Simplement, je pense que il faut toujours être capable aussi de revenir sur des erreurs. Et je pense que une assemblée digne de ce nom devrait effectivement se reposer la question en comprenant le mal qui a été fait par le second vote.
Je me permets de préciser que, comme vous parliez de l'intention du législateur, si l'intention du législateur dans sa majorité, ou en tout cas j'espère en tout cas de deux d'entre vous, était bonne, malheureusement, Leonetti, on sait ce qu'il en est, et il n'y a pas de mystère. Leonetti de 2015, il n'a pas changé par rapport à 2005. Et ça, il faut le garder en mémoire.
Je ne suis pas sûr, parce que moi,
je
pense
aussi.
Ah.
Je pense qu'il a changé, effectivement, qu'il a une vision peut-être moins ferme en 2015 qu'en 2005, pour une raison qui a d'ailleurs été exprimée par lui-même à la tribune de l'Assemblée, d'ailleurs partagée avec Alain Claës. Et c'était un des arguments pour faire voter le groupe des Républicains sur ce texte, c'est que c'était au fond, c'est la dernière loi qui nous permettra d'endiguer la légalisation de l'euthanasie. Autrement dit, si on adopte cette loi, légaliser sur l'euthanasie deviendra impossible. C'est évidemment, ça n'est jamais impossible. Enfin, c'est un rêve.
Comme l'introduction du pacte permettait d'éviter le mariage.
Mais voilà, c'est toujours les mêmes.
Emmanuel Valls a rappelé que ce n'était qu'une étape. Hein.
Voilà. Toujours les mêmes.
C'est le système des lois progressistes.
C'est français de mot conneries au micro de Radio Courtoisie, monsieur Vanesse. Donc je ne suis pas obligé de mettre un euro dans la tirelire. Mais je pense, c'est d'une bêtise absolue. Mais c'était l'argument de vente et l'argument de propagande. Et moi j'étais comme vous, alors j'étais pas encore député au moment de 2005, mais je pense que j'aurais voté cette loi sur l'acharnement thérapeutique.
Alors, sur le plan éthique, on peut comparer le professeur Xavier Ducrot au professeur Jérôme Lejeune, qui lui aussi a lutté de toutes ses forces contre la loi sur l'avortement. Ce sont deux immenses médecins.
Oui, je ne trahirai aucun secret en disant que le professeur Ducrot, qui est devenu un ami, qui est un homme remarquable de compétences, d'éthique, a sacrifié sa carrière pour Vincent.
Ah oui.
Parce qu'on le lui a fait payer.
Mais moi j'ai beaucoup aimé sa conclusion tout à l'heure.
On le lui a fait
sur
payer.
Sur l'éthique médicale. Quoi.
Oui, mais on le lui a fait payer.
On aime entendre ce retour à l'éthique médicale.
Il était directeur de l'éthique de Lorraine, il était professeur de l'université, on l'a viré. Il devait prendre la chefferie de service de Nancy, on l'a viré. Et voilà, et il est toujours droit dans ses bottes, c'est un type remarquable. Et quand cet auditeur dit qu'il est de la trempe de Jérôme Lejeune a sacrifié sa carrière et son prix Nobel qu'il aurait dû avoir à la défense du plus vulnérable.
Oui. Alors l'avocat, c'est Maître Chemla, c'est ça, du neveu de Vincent Lambert, a demandé à Monsieur Macron de se pourvoir en cassation. Cet homme se présente au municipal de Reims sous l'étiquette LREM. Ah oui, tiens, c'est vrai, ça, il y avait un aspect politique qui m'avait échappé là. Ah, c'est l'avocat
De Vincent Lambert, oui.
D'accord.
Oui. Voilà, a porté plainte contre les avocats, c'est-à-dire moi et mon excellent confrère Payot et moi, et les trois magistrats de la cour d'appel pour avoir osé montrer la vidéo de Vincent et avoir accepté pour les trois magistrats de la regarder, de Vincent le 19 mai 2019, donc la veille de sa mort programmée, d'avoir montré cette vidéo où Vincent, après avoir appris qu'il allait mourir, pleure en voyant arriver ses parents. Voilà. Et donc, le résultat, c'est une plainte. C'est intéressant.
Est-ce que je peux me permettre une remarque ?
Allez, j'en prie.
Surtout pas montrer Vincent tel qu'il est.
Patrick Bray.
Une remarque qui me fait, ça me fait beaucoup, vraiment beaucoup penser, voyez, à ce qui se passe pour l'avortement. Il y a un certain nombre d'années, il y avait un docteur, le docteur Nathanson, qui avait de lui-même, de ses propres mains, fait des milliers d'avortements aux États-Unis, qui est devenu pro-vie quand il y a eu les premières échographies, et qui, regardant un jour à l'échographie ce que faisait un avortement, il a arrêté quasiment du jour au lendemain parce qu'il a été horrifié de voir que l'enfant réagissait, essayait de fuir à la sonde, etc. Enfin, c'était un spectacle terrible.
Le cri silencieux.
Il a fait un film, Le cri silencieux, et il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour Vincent Lambert, on vous reproche, voire on vous attaque parce que vous avez osé montrer une vidéo qui montre l'humanité de cette personne, tout comme Nathanson avait été attaqué parce qu'il montrait l'humanité de l'enfant à naître.
Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand en 2015 une vidéo de Vincent a été publiée le montrant en fait tel qu'il est, c'est-à-dire réagissant avec ses proches, cette vidéo a été vue plus de 700 000 fois sur YouTube, donc je ne parle pas des autres plateformes, etc. Elle a été vue probablement des millions de fois. Les journalistes, le matin de la diffusion, m'appellent en me disant « Mais c'est incroyable, on ne pensait pas qu'il était comme ça, on pensait que c'était un légume branché à des machines. » Je dis « Oui, mais ça fait des années qu'on vous hurle la vérité, vous ne l'entendez pas. » Ils étaient sidérés. Ils disaient « C'est incroyable, incroyable, incroyable. » L'opinion publique était retournée. En deux heures de temps, ils s'étaient ressaisis. Et le débat, c'était pourquoi n'ont-ils pas flouté les yeux de Vincent, qui était en fait la seule chose importante à voir. Donc vous voyez, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et l'idéologie, mais quand elle reprend le dessus, eh bien...
C'est un des nombreux faits qui doivent nous inquiéter sur l'espèce de totalitarisme doux qui s'installe, qui s'installe dans notre société et qui... en fait, induit une censure, en fait. Il y a des réalités qu'on refuse de voir parce qu'elles sont contraires à l'idéologie. Mais c'est incroyable, parce que c'est exactement ce que l'URSS a fait pendant des décennies. On ne veut pas voir ce qui est contraire au programme, au programme communiste. Et bien, même, aujourd'hui, c'est la même chose
avec le progressisme. C'est la communication officielle de La République En Marche après l'exclusion de notre collègue Agnès Thil cet après-midi.
Oui.
Qui dit « Madame Thil a été exclue de La République En Marche car elle a tenu des propos pernicieux sur la PMA pour tous en rappelant que ça aurait pour conséquence de priver les offrants de père et les enfants d'avoir deux éducateurs. »
J'évoquais le sujet dans la première partie de l'émission qui était consacrée donc au conservatisme. Je pense que l'une des armes de combat contre le régime actuel, c'est effectivement la liberté d'expression. Ce régime est un régime oligarchique et c'est un régime totalitaire. C'est un régime qui interdit de penser autrement que lui.
C'est ça.
Il faudrait saisir toutes les occasions de souligner ce fait.
Absolument. Quand on voit les dérives actuelles avec les lois sur les fake news, quand on voit comment les gilets jaunes ont été traités, parce qu'on sait très bien que les exactions violentes étaient commises par les Black Blocs et que c'était à la limite encouragé par le pouvoir. Donc là, je m'excuse, je fais une toute petite aparté à ce sujet-là. Mais quand on voit que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de manifestation aussi violemment réprimée, que même en 68, la police n'utilisait pas les armes qu'ont utilisées la police contre les gilets jaunes, on voit bien qu'effectivement, on est dans des dérives totalitaires. Et que ça demande, il faut de notre côté être extrêmement tenace et montrer qu'on refuse de plier par rapport à ce genre d'intimidation.
Alors, j'ai ici un auditeur qui vient à notre secours, qui vient compenser nos défaillances culturelles. L'acteur, et oui, il fallait y penser, c'est Harrison Ford, et oui.
Harrison Ford.
Et oui, celui-là je le connaissais, mais j'avoue que je n'y ai pas du tout pensé tout à l'heure, mais je ne connaissais pas le film en revanche. Ce film est de 1991. Il faudra qu'on se le procure quand même. La brillante carrière de l'avocat Henry Turner est stoppée net par l'agression d'un braqueur. Après de longs mois de rééducation, il s'aperçoit qu'il lui est impossible de reprendre sa vie familiale et sa carrière où il les avait laissées. Voilà. J'avoue que j'ignorais l'existence de ce film, mais en tout cas, c'est un film qui paraît très intéressant. Et merci à Laurent de nous avoir informé sur ce point. Alors, que devient le docteur Sanchez, qui s'est acharné contre le transfert de Vincent Lambert? Je pense qu'il devient...
C'est
le médecin actuel. Là, on me parle du film « La tunique » d'Henri Koster. De 1953 avec Richard Burton et Jeanne Simmons. Je ne vois pas le rapport avec le sujet, mais il y a des grands amateurs de cinéma, vous avez remarqué ce soir. Donc Vincent Lambert n'a aucun soin, nous avons donc tous des soins puisque nous mangeons et buvons.
Les seuls soins qu'il a, c'est l'hygiène, c'est ce qu'on appelle les soins de nursing, pardon encore pour le cochon, mais l'hygiène, l'habillement, les soins anti-escarres, qui sont parfaitement faits puisqu'il n'a pas d'escarre, ce qui est déjà un miracle, sur un plan médical, et c'est tout, et l'alimentation et l'hydratation.
Alors ici, il y a une question, effectivement, c'est, est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est qu'un demi-neveu?
Oui, mais parce que c'est une famille recomposée, on parle de demi-frère. Le demi-neveu, c'est juste pour rappeler qu'en fait, il est encore moins qu'un neveu, et qu'il est déjà un neveu, que vient-il faire ici, alors qu'il y a des parents, et une épouse et des frères et sœurs. Le demi-neveu, c'est simplement parce qu'il est le fils de la demi-sœur de Vincent.
D'accord. Alors, c'est une condamnation à mort que l'on impose à Vincent Lambert. Je pense que chacun ici n'est pas loin de penser la même chose.
On est convaincu, je pense.
Le fait qu'il ait pleuré doit être une preuve qu'il comprend, en fait.
Oui, mais c'est le. Vous parliez de mystère tout à l'heure, c'est le mystère, ce que disait le professeur Ducrot, c'est le mystère de ces patients dont on ne sait pas ce qu'ils pensent, dont on ne sait pas quel est le niveau de leur conscience ou pas, mais il réagit. Et on nous dit ah, c'est réflexe. Oui, mais réflexe à quoi? Quand on pleure, c'est qu'on a un problème. Et il a pleuré la première fois en 2013, de la même manière quand il était en train de mourir.
Alors, vous avez parlé de tétraplégie. Est-ce une maladie due à un accident? C'est une maladie. C'est pas une maladie.
Non,
c'est dû à un accident.
Un handicap.
Qui s'est produit en 2008. C'est un accident de voiture, en fait, qui l'a mis dans cet état. Hein. Alors ici, bonsoir. Là, c'est une petite pique. à l'encontre de Jérôme Triomphe.
Oui, je suis habitué.
Bonsoir, le très sémillant et idéologique Triomphe, qui porte bien son
remercie.
Nom, qui porte bien son nom, me fait un peu peur, courtoisement.
Eh bien, écoutez, vous savez, le jour où vous serez dans quelques problèmes, faites appel à moi, rappelez-moi ce message et je m'occuperai de vous avec grand plaisir.
Alors, il y avait un supplice dans les camps de concentration. On enfermait les déportés dans des cachots sans leur donner à boire ni manger. On
retrouve Maximilien Kolb en est mort, oui.
Voilà, c'est ça.
Hein, oui, donc, c'était le cas des prisons de Louis XI aussi, enfin, c'est une vieille tradition.
Vincent Lambert est une occasion inespérée dans le contexte actuel, mais je ne sais pas pourquoi.
Inespérée pour faire avancer une loi sur l'euthanasie.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est une évidence. À notre corps défendant, c'est ce qui arrivera.
Il n'y aura même pas besoin d'une loi sur l'euthanasie ou à l'occasion de la loi de bioéthique. Il y aura certainement des articles additionnels.
Combien de plaintes ont été instruites avant la loi de 2005 sur l'arrêt des soins?
Ben, aucune. Enfin, voilà.
Nombre de patients recevaient un traitement sédatif dans les cas extrêmes, sédation que l'on pouvait penser accélérer le décès sans en être la cause première, de toute évidence, sans que les familles y voient autre chose qu'un soulagement de la douleur. Non, autrement dit, on est en train de dire, avant la loi, finalement, ça se faisait déjà.
Bah, la sédation existait déjà. Hein.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr qu'elle existait, mais je vous rappelle quand même le cas de cette infirmière de Poissy qui a euthanasié gaiement, si j'ose dire, pardon pour cet adverbe horrible. Quelques dizaines de ses patients, elle a fini devant les tribunaux, elle, pour le coup. Donc il y a eu quand même des...
Alors, la personne qui évoque ce sujet dit aussi que pour elle, c'est avant tout une loi qui a eu pour effet d'ouvrir la porte. Hein. Le pied dans la porte est une technique classique pour forcer le passage, autrement dit pour préparer l'euthanasie. Quoi. C'est, je pense que tout le monde le comprend comme ça.
Oui, entre faire mourir les gens de faim et de soif et pousser sur la seringue, je ne vois aucune différence de nature.
Alors, on va peut-être s'en arrêter là. Je tiens vraiment à vous remercier, hein, tous les trois, là, de cette émission qui manifestement a suscité un grand intérêt chez les auditeurs de Radio Courtoisie. Moi, je voudrais vous remercier de la qualité des informations et des réflexions qui ont été apportées à cette émission. Je pense que c'est un sujet qui manifestement rebondira dans deux jours. Peut-être est-ce qu'on pourra en reparler à nouveau. En tout cas, je crois que c'est un combat très noble. Et je vous remercie surtout d'avoir souligné sa noblesse. Hein, pour tous ceux qui pensent qu'effectivement, on le fait souffrir inutilement, il faut arrêter ça. Je pense que vous avez montré que le problème est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche en humanité. Merci encore à vous trois.
Merci.
Et bonne soirée aux auditeurs de Radio
Courtoisie. Et bonne fête du Sacré-Cœur vendredi, car vendredi, il se trouve que c'est la fête du Sacré-Cœur.
Très bien.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Christian Van Est, assisté de Nathalie, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 26 juin 2019, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.